France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir à tous. Un journal largement consacré à la crise politique qui s'est emballée ce matin avec la démission de Sébastien Lecornu, le Premier ministre déstabilisé par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui a fait voler en éclats le socle commun en réclamant une véritable rupture avec le macronisme. La suite, c'est Emmanuel Macron qui va l'écrire avec trois options sur la table. Un nouveau Premier ministre, la dissolution ou bien sa démission. Et l'on apprend à l'instant que Emmanuel Macron serait sur le point de renommer Sébastien Lecornu à Matignon. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur l'ouverture du deuxième procès des viols de Mazan. Gisèle Pellico a été accueillie sous les applaudissements. Un seul condamné lors du premier procès a fait appel de sa condamnation pour viol aggravé. La justice iranienne acquitte un cycliste franco-allemand arrêté en juin dernier. L'Iran qui évoque une possible libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, le couple détenu dans le pays depuis bientôt 3 ans. Sébastien Lecornu est devenu aujourd'hui le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. 27 jours à Matignon pour finalement présenter sa démission ce matin à Emmanuel Macron, qu'il a aussitôt accepté. Sébastien Lecornu, qui n'aura même pas eu le temps de réunir son nouveau gouvernement, il a jeté l'éponge quelques heures après le message dévastateur de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur, pourtant reconduit dans ses fonctions, avait critiqué un gouvernement qui ne reflète pas la rupture promise. Sébastien Lecornu a pris la parole ce matin dans la cour de Matignon pour reconnaître son échec, un échec qu'il impute à Bruno Retailleau, sans jamais citer le patron des Républicains. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Le ministre démissionnaire de l'Intérieur ne se sent pas du tout responsable de la démission du Premier ministre.
Non, ils ne porteront pas la responsabilité de l'échec, même temporaire, les LR, pas officiellement. En tout cas, à peine leur réunion de la mi-journée terminée, le patron du parti est allé s'en expliquer sur TF1. Bruno Retailleau se sent-il responsable ?
Écoutez, pas du tout.
Les LR ont mis plusieurs heures ce week-end à déterminer leur ligne pour finalement accepter de participer au gouvernement Lecornu. Bruno Retailleau a donc été reconduit, Annie Genevard aussi et d'autres, mais pas de nouveaux entrants.
On s'en fiche. Le nombre de miss, on s'en fiche.
Pointé par une partie du bloc central qui l'accuse d'avoir fait un caprice ridicule et contrairement à ce que laissait entendre un de ses conseillers hier soir, le patron du parti le jure, ce n'est pas ça le problème.
Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre, quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Peu importe Bruno Le Maire, c'est pas pour ce qu'il est lui. Mais c'est pour la représentation que les Français peuvent en avoir. On promet une rupture et on se retrouve avec des chevaux de retour.
Des voix en interne se sont élevées. Le vice-président David Lisnard a menacé de rendre sa carte. Les fédérations se sont insurgées. Des militants aussi, ce qui a conduit à la suite. Pour autant, les LR ne basculent pas dans l'opposition et ne ferment pas la porte à une future participation, à une condition.
Il y a rupture ou il n'y a pas rupture. Et je pense qu'on ne peut plus s'engager s'il n'y a pas vraiment un cap qui soit très franc.
Mais ce cap, et c'est ce que lui a reproché sans le nommer Sébastien Lecornu ce matin, ce cap, Bruno Retailleau, ne l'imagine pas autre que le sien.
Rosalie Lafarge, merci. À gauche, Jean-Luc Mélenchon appelle une nouvelle fois à la destitution d'Emmanuel Macron. Le leader insoumis conteste la légitimité même du président de la République. Il veut relancer des discussions avec ses anciens alliés de gauche. D'où son invitation lancée au parti fondateur de la NUPES et du Nouveau Front Populaire pour se réunir dès aujourd'hui. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Les socialistes ont opposé une fin de non-recevoir à Jean-Luc Mélenchon.
Oui, le PS a officiellement acté lors de son bureau national en début d'après-midi, le fait de ne pas répondre à ce qu'il considère comme une convocation du leader insoumis. Mélenchon, c'est vraiment pas notre sujet, précise un cadre du parti, trop occupé à peaufiner la stratégie socialiste face à cette démission de Sébastien Lecornu qui les a atterrés ce matin. Comme les écologistes et les communistes, le PS n'appelle ni à la dissolution, ni au départ du chef de l'État, mais à une solution qui permette aux Françaises et aux Français d'être respectés, précise un communiqué envoyé il y a un peu plus d'une heure. Il demande en revanche à Emmanuel Macron la nomination d'un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. C'est la revendication déjà formulée par le PS et la gauche de place publique à François Ruffin au moment de la chute de François Bayrou, opportunément recyclée aujourd'hui puisque l'histoire se répète. Les insoumis ne veulent pas d'une alternative gouvernementale, rappelle un député proche d'Olivier Faure. La proposition lancée par LFI ne pouvait faire que pchit, poursuit un ténor socialiste. Pour preuve, le coordinateur national des insoumis, Manuel Bompard, a expliqué ce midi vouloir cette réunion. D'une part, pour tenter de convaincre les dubitatifs à gauche sur l'opportunité de soutenir leur motion de destitution d'Emmanuel Macron. Et d'autre part, d'évoquer des candidatures communes en cas de dissolution. Autrement dit, discuter d'une ligne politique totalement différente des autres, à cette heure en tout cas. Socialistes et leurs partenaires de place publique au Parti communiste vont donc discuter entre eux de leur stratégie commune, quitte à essuyer à nouveau des attaques en trahison de la part des insoumis. Mélenchon, ça fait plus de 6 mois qu'il est obsédé par le PS, ça ne va rien changer en fait, souligne amusé un cadre socialiste.
Adrien Toffolet, merci. Je vous le disais en titre, cette crise politique est en train de s'emballer avec un nouvel élément ce soir survenu il y a quelques minutes. Eh bien, on apprend qu'Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Stanislas.
Alors, comment peut-on interpréter ce revirement, Emmanuel Macron qui demande à Sébastien Lecornu de mener d'ultimes négociations?
Eh bien, manifestement, il n'accepte pas complètement encore tout à fait la démission de son Premier ministre, même s'il l'a accepté ce matin. Il est apparu que l'ex-ministre de l'économie qui a été renommé aux armées, Bruno Le Maire, a fait savoir ce midi, qu'il était prêt à quitter le gouvernement et que le président et le président de la République auraient accepté le fait que Bruno Le Maire quitte le gouvernement. C'est manifestement une des raisons qui a fait exploser le socle commun, le fait que Bruno Le Maire, 7 ans ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, a été nommé ministre des armées, n'a pas été compris et n'a pas été supporté, notamment à droite, hein, puisque ça... Et du coup, le départ de Bruno Le Maire, estime vraisemblablement le président, serait susceptible de changer la donne. Il a donc décidé de confier à Sébastien Lecornu le soin de mener d'ultimes négociations pour savoir s'il était encore possible de sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire le gouvernement, dans la perspective, sans doute, éventuellement, de le renommer, voir si c'était s'il est possible de faire prospérer à nouveau ce gouvernement sans Bruno Le Maire, du coup. Ça paraît toutefois assez peu probable, parce que c'est pas seulement la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées qui a posé problème. C'est depuis plusieurs jours, c'est Sébastien Lecornu qui tenait dans l'incertitude la plus totale de la feuille de route toutes les composantes du socle commun. Horizon, le Modem, l'UDI et la droite républicaine qui, au bout du compte, a accepté de participer à ce gouvernement, mais qui, finalement, s'est trouvé avec la nomination de Bruno Le Maire tenue dans le secret le plus total de la constitution de ce gouvernement et qui a dit « ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Nous jetons l'éponge. Mais ça n'est pas la nomination de Bruno Maire qui est véritablement le problème. C'est le fait que Sébastien Lecornu a laissé tout le monde dans l'expectative, sans dire ce qu'il allait faire. Et c'est ça qui a fâché tout le monde, finalement. Et on a vu au bout du compte, avec la nomination de ce gouvernement, que la plupart des ministres du gouvernement Bayrou étaient reconduits. Et les composantes du socle commun étaient réduites à la portion congrue. Avec des ministres, les Républicains, qui se trouvaient complètement désarçonnés par ce qui était en train de se passer. Donc le socle commun a volé en éclats. Est-ce qu'on arrive à le reconstituer comme ça, juste en sortant Bruno Le Maire? Ça paraît assez peu probable. En tout cas, c'est l'option que choisit Emmanuel Macron en demandant à son Premier ministre, son ex-Premier ministre, puisqu'il a démissionné ce matin, de continuer les négociations jusqu'à mercredi, vraisemblablement dans l'éventualité de le renommer. Moi, ça me paraît assez difficile à ce stade.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, pour cette première analyse. Cette crise politique qui s'éternise au gré des rebondissements inquiète bien sûr les milieux économiques qui veulent d'abord de la stabilité. La Bourse de Paris accusée à la mi-journée une baisse d'1,4% et le taux d'intérêt français à 10 ans est passé au-dessus du taux italien. Au cœur des inquiétudes, il y a la dette française qui ne cesse de s'alourdir. Annabelle Grolier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Dans un souci d'apaisement, le MEDEF annonce reporter son grand meeting prévu le 13 octobre à Paris. Mais la crise politique divise aussi le patronat, Annabelle.
Ce devait être un rassemblement pour défendre les entreprises au moment de la présentation du projet de budget 2026. Alors que les appels à augmenter la fiscalité des plus riches et des entreprises se multipliaient, à travers par exemple la taxe Zuckmann, et que les pistes envisagées par Sébastien Lecornu pour assainir les comptes publics semblaient leur demander un effort, surtout aux plus grandes entreprises, le MEDEF comptait faire une démonstration de force pour faire entendre sa voix. Alors, sans Premier ministre ni gouvernement, forcément, l'opération a bouclé. beaucoup moins d'intérêt. Et puis, il faut bien le dire, ce rassemblement que Patrick Martin, le patron du MEDEF, voulait énorme, était quand même mal parti. Déjà, l'UDP avait décliné, les artisans, commerçants et les professions libérales ne se sentaient pas concernés par ce combat que leur président Michel Picon avait qualifié de lutte des classes inversées. La CPME, deuxième organisation patronale, n'y allait pas non plus. Les petites et moyennes entreprises n'avaient pas envie de jouer les petits soldats de la grande offensive du MEDEF. Un MEDEF donc qui devait compter sur ses seules troupes pour remplir les 13 000 places de l'accord Arena. L'inquiétude commençait à se sentir en interne, les relances téléphoniques et quelques trains que l'on pouvait affréter au départ des régions. Bref, le rendez-vous est annulé. Une décision votée à l'unanimité au sein du MEDEF. Un MEDEF qui change un peu de ton ce soir et appelle désormais l'ensemble des responsables politiques à prendre la mesure d'une situation qui pourrait mener au chaos et pourrait aggraver la situation économique du pays.
Explication signée Annabelle Grelier. Côté syndical, la CGT s'en prend ce soir à Emmanuel Macron. Le président de la République a fait le choix du chaos institutionnel, écrit le syndicat dans un communiqué. Pour la CGT, Sébastien Lecornu n'a pas eu le courage d'affronter les grands patrons, la deuxième centrale française qui estime qu'il n'y aura pas de stabilité sans justice sociale. On l'a bien compris, la crise politique chahute l'économie française, la France qui emprunte plus cher que l'Italie pour rembourser sa dette et l'écart avec l'Allemagne qui fait référence en Europe s'est encore creusé. Le gouvernement allemand qui suit de très près les développements de la crise politique française. On retrouve à Berlin notre correspondant Sébastien Baer, bonsoir.
Bonsoir Stanislas. Bonsoir à tous.
Sébastien, le gouvernement de Friedrich Merz souhaite une France stable pour l'Europe.
Oui, le porte-parole du chancelier l'a rappelé tout à l'heure et on a entendu quand même entre les lignes un peu d'inquiétude, mais ce proche de Friedrich Merz s'est empressé d'ajouter qu'il n'a pas de doute sur la stabilité de la France. À l'inverse, la presse allemande se montre plutôt pessimiste. Les journaux évoquent la chronique d'une chute de Sébastien Lecornu annoncée dès le départ avec le retour de 13 ministres sortants et surtout la nomination de Bruno Le Maire, qualifié de roi de la dette par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bref, ce gouvernement avait tout d'une provocation et les commentateurs estiment que Sébastien Lecornu n'a fait que devancer l'inéluctable. D'ailleurs, sa nomination, il y a moins d'un mois, laisse le Spiegel sceptique. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tenté une troisième fois ce qui avait déjà échoué avec Michel Barnier et François Bayrou, questionne l'hebdomadaire. Retour à la case départ, Emmanuel Macron, sous pression et affaibli, va devoir se mettre en quête d'un nouveau Premier ministre. Le mouton à cinq pattes, ironise la presse qui s'interroge sur l'instabilité politique dans l'Hexagone. Le quotidien économique Handelsblatt, qui rappelle que la France est le pays de l'Union européenne le plus endetté, ne voit aucune issue, tant les groupes politiques campent sur leur position. Quant au correspondant parisien du Süddeutsche Zeitung, il estime qu'Emmanuel Macron, après avoir sacrifié trois premiers ministres en 12 mois, est désormais un homme seul qui n'a plus d'autre ambition que de gérer son héritage.
Sébastien Baer en direct de Berlin. La crise politique, on en reparle après ce journal dans Question du soir. Peut-on encore gouverner la France? C'est la question que Quentin Lafay posera à ses deux invités, Étienne Ollion et Olivier Rosenberg. Gisèle Pélicaud est arrivée sous les applaudissements aujourd'hui à la cour d'appel de Nîmes pour le procès de l'un de ses violeurs présumés, Oussamettine D. Cet ancien ouvrier est le seul à avoir contesté sa condamnation à 9 ans de prison pour viol aggravé. Une nouvelle épreuve pour Gisèle Pélicaud, devenue une icône mondiale pour avoir refusé le huis clos lors du premier procès l'an dernier devant la cour criminelle de Vaucluse. On retrouve à Nîmes notre envoyée spéciale Julie Pacaud, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Julie, un deuxième procès très suivi par les médias et par les militantes féministes.
Oui, elle est arrivée à pied jusqu'à la cour d'assises. Gisèle Pélicaud, veste rose, carré roux et lunettes de soleil relevées sur la tête, la main de son fils cadet posée sur son épaule. Soutenue, autant que déterminée, elle a fendu le groupe de militantes féministes qui l'attendait depuis ce matin, applaudie et ovationnée. Des militantes de collectifs féministes que Gisèle Pélicaud a pris le temps de saluer, ces femmes qui sont venues la soutenir quotidiennement l'année dernière à Avignon. À 72 ans, celle qui est devenue une des figures majeures de la lutte contre les violences sexuelles est ensuite entrée dans la petite cour d'assises et a de nouveau fait face à l'un de ses violeurs, Oussamettine D, 44 ans. Comparaissant libre, il est arrivé à l'audience le visage dissimulé derrière un masque chirurgical et des lunettes de soleil. Casquette gavroche vissée sur la tête, l'accusé s'est déplacé péniblement jusqu'à la
barre à l'aide d'une canne. Le président a alors rappelé les faits qui lui sont reprochés, les viols aggravés sur Gisèle Pélicot commis une nuit de juin 2019. Quelle est votre position aujourd'hui ? Interroge le président. Je suis là parce que je n'ai jamais voulu violer cette dame. J'ai tout le respect pour elle. Je nie les faits, répond l'accusé face aux 9 jurés attentifs et sous le regard de Gisèle Pélicot, la tête haute derrière ses avocats. Face à ces dénégations, les vidéos de ces viols seront une nouvelle fois projetées demain à l'audience. Gisèle Pélicot n'y est pas opposée. Elle a d'ailleurs réclamé une nouvelle fois la levée du huis clos, mais seulement que son fils, Florian, quitte la salle lors de la projection des images.
Julie Pacaud en direct de la cour d'appel de Nîmes avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Une éclaircie ce soir dans les relations très tendues entre la France et l'Iran. La justice iranienne a acquitté aujourd'hui Lennart Monterlo, ce jeune franco-allemand arrêté le 16 juin dernier alors qu'il traversait à vélo en solitaire le territoire iranien. Dans le même temps, Téhéran dit espérer la libération prochaine de Cécile Kohler et Jacques Paris, le couple français détenu en Iran depuis 3 ans. Christian Chéneau, bonsoir.
Bonsoir.
La France considère que ses ressortissants détenus en Iran sont des otages du régime, mais les tractations pour leur libération semblent s'accélérer aujourd'hui.
Oui, cet acquittement est le signe que le processus de son retour en France semble désormais bien engagé. Ce matin, le tribunal révolutionnaire prenait en compte les principes juridiques et les doutes quant à l'infraction, a prononcé l'abandon des charges qui pesaient sur Lennart Monterlo. Ça fait savoir le pouvoir judiciaire. On s'achemine peut-être vers la clôture du dossier des otages d'État, selon l'expression du Quai d'Orsay, un dossier qui empoisonne les relations franco-iraniennes en plus du programme nucléaire de la République islamique. Les choses semblent également avancer dans un sens positif pour les 2 autres ressortissants français encore détenus en Iran depuis mai 2022. Cécile Kohler et Jacques Paris, eux aussi accusés d'espionnage pour le compte d'Israël. La décision de leur libération est en cours d'examen, affirme le porte-parole iranien des affaires étrangères, qui n'a toutefois pas cité les noms des 2 Français emprisonnés à la prison d'Evin dans la banlieue de Téhéran, mais qui pourrait indiquer un dénouement prochain. De son côté, l'Iran réclame une contrepartie, c'est-à-dire la remise en liberté d'une étudiante, Mardieh Esfandiari, arrêtée en France en février dernier et actuellement détenue à la prison de Fresnes en région parisienne. La justice française l'accuse d'avoir publié des messages sur les réseaux sociaux faisant la promotion du terrorisme.
Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. Ils ont quitté le sol israélien où ils étaient détenus illégalement, disent-ils, depuis la fin de la semaine dernière, après l'arraisonnement de la marine israélienne. Les 32 ressortissants français qui étaient à bord de la flottille pour la paix à Gaza sont arrivés ce soir à Athènes, la Grèce, où ils font étape sur le chemin du retour vers la France. Camille Magnard, les Français de la flottille n'ont pas pu avoir le moindre contact avec leurs avocats français.
Non, et ces derniers disent n'avoir eu aucun contact non plus avec la diplomatie française, qui doit la protection consulaire à ces 32 citoyennes et citoyens français. Tout ce que l'on sait, en fait, c'est par les autorités israéliennes qui ont annoncé expulser aujourd'hui 171 ressortissants étrangers vers 2 destinations, la Slovaquie et la Grèce, donc, où ont atterri tout à l'heure 161 personnes, dont des Grecs, bien sûr, des Belges, des Suédois, avec notamment la militante écologiste Greta Thunberg, et donc nos compatriotes français, mais leurs avocats disent ne même pas savoir quel est leur statut judiciaire et s'ils sont libres de toute poursuite, s'ils peuvent repartir immédiatement vers la France, sachant que les autorités israéliennes leur ont pris tous leurs effets personnels, téléphone et argent compris, vêtements aussi. Sur les chaînes télé israéliennes ce matin, on a diffusé des images de Greta Thunberg, notamment à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, portant l'uniforme des détenus des prisons israéliennes, un survêtement gris. Hier, 21 militants espagnols de la flottille ont pu rejoindre Madrid. Ils ont immédiatement témoigné des mauvais traitements qui leur auraient été imposés pendant leur détention. Accusation aussitôt démentie par les autorités israéliennes qui détiennent toujours ce soir 138 membres sur les 450 en tout de cette flottille pro-Gaza.
Camille Magnard, merci. Par ailleurs, les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza ont commencé aujourd'hui en Égypte. D'un côté, les négociateurs du Hamas, de l'autre, les négociateurs israéliens et au milieu, les médiateurs égyptiens. Des pourparlers qui reposent sur le plan de paix de Donald Trump, qui prévoit la libération de tous les otages israéliens et le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Je vous rappelle la principale information de ce journal, on l'a appris tout à l'heure. Emmanuel Macron demande au Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, de mener d'ultimes négociations d'ici mercredi soir. Et cela afin d'aboutir à une plateforme d'action pour la stabilité du pays. Voilà ce qu'écrit ce soir l'Élysée dans un communiqué. Un mot du temps pour conclure ce journal. Le temps qui sera calme et ensoleillé demain sur tout le pays. Les brouillards matinaux seront nombreux sur la façade est. Mais le soleil s'imposera un peu partout l'après-midi. Les températures minimales iront de 6 à 10 degrés en général jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, le thermomètre grimpe entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Éric Perruchot-Triboulet.